Voilà, chers amis, nous sommes tellement contents d'être de retour à la maison. Nous sommes tellement heureux lorsque nous considérons la fidélité de Dieu au fil des années. J'entendais tout à l'heure dans l'introduction de mon cher frère, l'annonce que certains étaient venus depuis 40 ans. Ça fait quand même des années, n'est-ce pas? Parce que nous fêterons l'année prochaine les noces d'argent. Rassurez-vous, ce ne sont pas nos noces d'argent, à nous deux, mais les noces d'argent de notre collaboration et de notre communion ici, puisque j'ai pris soin de noter, il y a 24 ans, dans mon registre, à la date du 6 au 10 mai 1982, une première série d'enseignements, de 4 études, dans ce lieu. Alors maintenant, j'ai la grande question. Je n'ai pas de prix à offrir. Ça m'est arrivé parfois de proposer des prix à qui répondrait à la question à 1000 euros. Est-ce que quelqu'un se souviendrait du thème? Rendez compte, c'est terrifiant que j'ose poser une telle question. C'est parce que je sais que vous ne répondrez pas à une telle question que je n'ai pas apporté avec moi de récompense. Ça a été un tout petit peu plus tard, en fait, mais peu de temps, oui, oui, oui. 84. Oui, 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 c'est ça. Oui. Non, en 82, c'était la vie conjugale. La vie conjugale. Vous voyez? D'où la justification de mon expression « noces d'argent » pour l'année prochaine. Ça fera 25 ans, Dieu voulant, donc, que nous vous visitons. C'est là notre 19e temps de partage avec vous. Il y a 2 semaines, nous étions à Marseille, et je disais à l'église de l'Action biblique de Marseille qui nous invitait pour la première fois qu'elle était largement en retard sur l'église dans laquelle nous serions 15 jours plus tard. Donc nous bénissons Dieu pour tout ce que cela signifie en termes de grâce de Dieu, de patience de Dieu, de fidélité de Dieu, de soutien de Dieu, parce qu'il s'en passe des choses en 25 ans de vie. Il a été rappelé que le thème que nous abordons durant ce week-end s'inscrit dans le droit fil de ce que nous avons commencé à partager l'an dernier, à la même époque. C'était les 23 et 24 avril 2005, vous voyez que c'est vraiment du un an, et le thème général était donc sur la première épître de Pierre appelée « Dans un monde hostile ». Et après une introduction sur laquelle je vais très très brièvement revenir dans un instant, nous avions évoqué l'appel fondamental par lequel tout commence, c'est-à-dire l'appel au salut, qui est un des axes des Écritures, du plan éternel de Dieu, et plus spécialement de cette première épître de Pierre. Et après cet appel au salut, nous avions commencé à nous pencher sur l'appel aux souffrances que nous avons volontairement appelées souffrances injustes, puisque la première épître de Pierre fait bien la distinction entre les souffrances qui sont la conséquence de nos désordres, de nos problèmes personnels, de ces casseroles parfois épouvantables que nous traînons avec nous en matière de péché et qu'il faut d'abord régler au pied de la croix pour qu'ensuite Dieu gère avec nous les conséquences. Ça, c'est la beauté de la grâce de Dieu. Mais toutes les souffrances qui tournent en particulier autour de notre statut de disciple de Jésus-Christ dans un monde hostile. C'est ce qui nous avait beaucoup occupés jusqu'à la fin du week-end. Nous ne l'avions vu qu'en partie parce que le thème est généreux, mais aussi parce que nous avons déjà eu l'occasion dans le passé de traiter ce thème à partir d'une des 7 lettres circulaires adressées à l'église de Smyrne au début de l'Apocalypse, lettre tout entière consacrée à ce sujet. Donc nous allons faire un pas de plus et il se pourrait, c'est ainsi un peu que je l'entrevois, que la richesse du thème que nous allons aborder nous conduise à envisager de le prolonger. Vous ne seriez pas les premiers. Nous sommes déjà depuis aussi une quinzaine d'années chaque année en Arles, donc dans le sud-est, pour un programme d'enseignement. Et cette église avait volontairement choisi 3 années de week-end de suite sur la première épître de Pierre. Voyez donc que nous ne serions pas pionniers en la matière ici. Et je le redirai, cette première épître de Pierre est tellement proche d'une réalité qui s'inscrit de plus en plus dans le climat au sein duquel l'Église de Jésus-Christ vit, dans nos pays en particulier, qu'il vaut la peine de passer du temps sur ce sujet. Donc, dans un premier temps, avant de lire avec vous un premier passage, je voudrais faire un bref rappel, sans m'y attarder, d'autant plus que tout a été enregistré l'an passé aussi, donc les cassettes sont à disposition. Maintenant, on fait des progrès, hein. On va de plus en plus loin, mais c'est bien. Je rappelle simplement quelques éléments fondamentaux concernant cette première épître de Pierre. Il me semble que c'est nécessaire, même si nous sommes censés lire, parcourir les Écritures de manière régulière, et peut-être que certains d'entre vous avaient lu la première épître de Pierre, ne fût-ce que pour vous préparer à ce week-end. Lorsque nous ouvrons la première épître de Pierre, nous sommes en face d'une circulaire, une lettre circulaire, comme nous faisons, certains d'entre nous, des circulaires pour communiquer un certain nombre de nouvelles et parfois aussi avec sur le cœur un message à destination de ceux qui vont recevoir ces circulaires. C'est une circulaire qui était d'abord adressé aux croyants dispersés dans le nord de l'actuelle Turquie. Territoire qui, aujourd'hui, fait beaucoup parler de lui, n'est-ce pas? Lettre d'encouragement. D'encouragement, il faut le dire. Mais aussi, ou et aussi, parce qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre, et aussi d'exhortation. D'ailleurs, les deux termes peuvent venir du même mot. Il y en a plusieurs dans le vocabulaire grec du Nouveau Testament, mais un de ces mots peut se rendre aussi bien par encouragement que par exhortation, mais il y a d'autres termes qui vont également dans cette direction. Encouragement, exhortation à tenir ferme dans une épreuve, une situation de souffrance qui n'est encore qu'embryonnaire, qui en est à ses débuts. Les choses vont devenir beaucoup plus difficiles. Tenir ferme dans une épreuve qui surtout essentiellement se profile à l'horizon, qui menace les croyants, puisque au chapitre 4, tout à fait à la fin du chapitre 4, il est indiqué au verset 17 de cette première épître, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. L'apôtre Pierre, qui vit dans l'intimité de son Seigneur, qui a appris à l'écouter et qui, à cause de cela, a cette capacité communiquée d'en haut de discerner les temps dans lesquels il vit, et combien c'est important pour le disciple de Jésus-Christ en tout temps, voit des nuages de plus en plus sombres qui s'amassent au proche horizon. À Rome, les croyants commencent à vivre une situation extrêmement difficile. Néron est au pouvoir, on ne va pas en parler. Et par cercles concentriques de plus en plus larges, l'épreuve va finir par atteindre les croyants situés aux confins de l'Empire. Et Pierre le pressent. Et donc il est mandaté par Dieu, merveilleusement inspiré par le Saint-Esprit pour communiquer ce message tellement important afin que les croyants soient préparés au déferlement de persécutions qui vont surtout se développer à partir de l'an 64. Nous avons dans cette lettre un abrégé de la foi et de la conduite chrétienne, ou encore un manuel de savoir-vivre pour ambassadeur dans un pays étranger hostile, ou encore un guide pratique à l'usage des voyageurs vers le ciel. C'est ce que nous avions commenté dans notre étude d'introduction de l'an dernier. Et il y a donc dans cette première épître de Pierre une dimension très forte d'appel, de vocation, d'où le titre « Appelé dans un monde hostile ». Et nous avions relevé dans ces cinq chapitres cinq appels disséminés dans le texte. Un appel qui va beaucoup nous intéresser pendant ce week-end, qui est essentiel. J'ai été bouleversé, j'ai passé de longues heures cette semaine à retravailler, à remodeler cet enseignement avec beaucoup de profit personnel. L'appel à la sainteté, ça c'est ce qui va beaucoup nous occuper, l'appel à la sainteté. C'est une pierre de touche absolument fondamentale dans les Écritures, on ne le dira jamais assez, et vous en rendrez compte vous-même au fil de notre enseignement. Chapitre 2, verset 9, l'appel des ténèbres à la lumière, nous l'avons dit tout à l'heure, appelé au salut. C'est par là que cela commence. Chapitre 2, verset 21, appelé à souffrir injustement. Je l'évoquais dès les premiers mots de cette introduction générale. Ensuite, chapitre 3, verset 9, appelé à bénir. Appelé à bénir. Et dans un contexte de difficulté, d'hostilité, de souffrances injustes, de difficultés dans l'Église aussi, parce que Pierre est lucide et il sait que dans l'Église de Jésus-Christ, dans le nord de l'actuelle Turquie, à cette époque, tout n'était pas merveilleux. Tout au long des siècles, les églises, parce qu'on est ici-bas sur la terre, ont traversé des périodes parfois extrêmement difficiles, aussi sur le plan relationnel, ce qui nous amènera, mais je serais étonné qu'on puisse y toucher cette fois-ci, à évoquer l'importance de relations d'amour, qui sont très concrètement indiquées de manière très ramassée, mais très concise, dans cette première épître de Pierre, appelé à bénir. Et puis, le chapitre 5, verset 10, la perspective, l'espérance, appelés à la gloire éternelle. Et on comprend pourquoi cette première épître de Pierre est une épître d'encouragement. Tout simplement parce que face à l'hostilité d'un monde qui, de plus en plus, en tout cas dans nos pays, se désintéresse de notre Dieu, du Dieu de Jésus-Christ et de sa parole, combien il est doux, fortifiant, encourageant d'avoir une juste perspective, n'est-ce pas ? Parce que notre regard ne s'appesantit pas sur ce que nous vivons aujourd'hui et maintenant, mais notre regard va au-delà du présent. Il est fixé sur Christ, sur le Christ ressuscité, glorifié, et sur le Christ qui revient, n'est-ce pas ? Et c'est aussi ce que nous aurons à cœur de souligner en conclusion de notre réflexion sur l'appel à la sainteté. En terminant cette introduction très très rapide et d'ordre général sur la première épître de Pierre, j'aimerais relire ce petit texte qui est remarquable et qui va servir aussi d'introduction à la suite. Écoutez ce texte. À travers les siècles d'épreuves et de persécutions que l'Église a dû traverser, cette épître a été plus que tout autre, source de consolation et de réconfort. Elle est citée dans de nombreuses lettres de prisonniers de tous les temps. Elle a été comme la boussole d'un pilote naviguant sur une mer démontée. Au milieu des ténèbres et des éléments déchaînés, elle a pointé vers le but et indiqué le cours à suivre. Aujourd'hui, en bien des endroits, l'Église chrétienne se retrouve dans les conditions de l'Église des premiers siècles, en butte aux persécutions ouvertes. Partout, elle ressent une pression croissante d'un entourage néo-païen. Sa relative quiétude des siècles précédents a fait place à une insécurité que partage même le monde. Plus que jamais, les chrétiens ont besoin de savoir comment se comporter en étranger et voyageur dans un contexte hostile, de se voir rappeler que la sainteté est plus importante que la santé. Gardons cette parole en mémoire. Elle constitue la toile de fond de notre réflexion du week-end. La sainteté est plus importante que la santé et que Dieu sait utiliser la souffrance pour nous faire acquérir des biens autrement précieux. Pour toutes ces raisons, la première épître de Pierre peut être considérée comme un message vital de Dieu pour notre temps. Et c'est Martin Luther qui disait que cette épître est un des plus nobles écrits du Nouveau Testament. Elle est le vrai et pur évangile. Et sur cette toile de fond très ramassée, nous évoquons, avant d'entrer dans l'épicentre du sujet, dans le noyau dur du sujet de la sainteté, nous évoquons un mot qui revient à plusieurs reprises dans cette première épître de Pierre et qui pourrait constituer le sixième appel, mais que je mettrai maintenant en premier lieu. Appeler à l'obéissance. Appeler à l'obéissance. Tout simplement parce que, lisons-le, au début de cette première épître de Pierre, dans les tout premiers versets, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 1er, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, littéralement pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Mais voyez, d'emblée, hein, première note forte, premier défi, afin qu'ils deviennent obéissants. Nous sautons jusqu'au verset 13, où nous lisons « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, de votre intelligence, de votre pensée, tenez votre esprit en éveil, ne vous laissez pas distraire, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. » Vous voyez, toujours ce regard hein, qui est porté vers le retour du Seigneur, hein, combien c'est important. « Qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra comme des enfants obéissants. » Mes amis, nous allons tout à l'heure nous arrêter là-dessus. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas, ne vous coulez pas dans le moule, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, ici aux désirs coupables que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, en dehors de Christ. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint. » Voilà ce qui va nous intéresser. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre, votre séjour à l'étranger sur la terre. Vous êtes des immigrants, nous avons longuement vu ces textes l'an passé. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité. Là encore, voyez, troisième mention, nous sommes dans le chapitre premier, troisième mention de l'obéissance. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Et le temps qui est utilisé ici, non pas en français, mais en grec, est un temps particulier qui indique qu'il y a eu à un moment donné un événement qui fait que vous êtes ce que vous êtes maintenant. Et l'effet de cet événement, c'est un effet pour votre présent, pour le passé, pour le présent, n'est-ce pas, pour l'avenir. C'est quelque chose qui a eu lieu dans le passé, mais dont l'effet est là aujourd'hui. Bien entendu, nous savons ce qu'est cet événement, n'est-ce pas? C'est la croix qui s'est dressée au calvaire. C'est le sang de Christ qui a coulé. Et c'est ce moment où nous avons capitulé, où nous sommes venus au pied de la croix et où nous avons plaidé coupable. Ça a été, en quelque sorte, par le Saint-Esprit, notre première obéissance. Tout commence par une première obéissance. Il n'y a pas de salut sans une première obéissance. Celle de notre capitulation, celle de notre plaidé coupable, celle de notre demande de pardon, celle de notre repentance, lorsque se produit au fond de nous-mêmes, de manière mystérieuse mais radicale, ce basculement, n'est-ce pas, cette transformation de notre vision au niveau de notre pensée, lorsque ce que nous avons haï, peut-être, nous l'aimons. Ce que nous avons aimé dans bien des domaines, désormais nous allons peut-être le haïr. Il y a des bouleversements incroyables qui se sont produits en nous. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, je ne vais pas le commenter maintenant, je brûle d'envie, mais on va laisser cela pour plus tard. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc nous avons là déjà trois termes, ou trois fois le même terme, obéir. Si nous allons dans 1 Pierre au chapitre 3 et au verset 6, 1 Pierre 3, 6, ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, elles se paraient d'un esprit doux et paisible, dit le verset 4, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Des textes très particuliers, puisque c'est le seul texte des Écritures qui, dans la relation conjugale, évoque l'obéissance de l'épouse à son mari. Alors, ce n'est pas notre thème, mais j'ose quand même dire que l'obéissance, dans ce cadre, n'est pas l'équivalent de l'obéissance d'un enfant à ses parents. Il faut le dire. D'ailleurs, il faut toujours essayer de creuser un texte pour comprendre la portée des termes utilisés. Si vous avez quelques connaissances du tempérament de Sarah et des relations qu'elle avait avec son mari, vous devinez bien que son obéissance n'était pas une obéissance servile, elle n'était pas une larve ou un marchepied. Et quoi qu'elle ait, effectivement, nous dit Genèse 18, appelé Abraham son Seigneur. Mais il suffit de voir le contexte de l'histoire d'Abraham dans ses relations avec Sarah pour réaliser qu'on est loin de ce que certains pensent de la relation entre une épouse et son mari. Mais je tenais simplement à le dire au passage, ce n'est pas notre thème ici. Sans doute aurons-nous dans l'avenir l'occasion de nous pencher sur cette question de la soumission, non pas dans ce week-end, mais tout simplement parce que la soumission est un des grands thèmes, autorité et soumission, de la première épître de Pierre dans tous les domaines. Et la première épître de Pierre est remarquable, remarquable, d'équilibre, comme toujours. Dieu est un Dieu merveilleux à cet égard, pour nous donner ses instructions. Comme Sarah qui obéissait à Abraham, soyez soumis. Alors si je résume, 1 Pierre 1, 1, 2, afin qu'ils deviennent obéissants pour obéir à Jésus-Christ, ça c'est fondamental, ça commence par là. 1 Pierre 1, 24, comme des enfants obéissants, soyez saints. 1 Pierre 1, 22, en obéissant à la vérité pour avoir un amour, donc l'obéissance orientée ensuite dans la direction de l'amour. 1 Pierre 3,6, comme Sarah qui obéissait à Abraham, soyez soumis, donc une obéissance qui va se traduire en soumission dans les différentes sphères de la société jusqu'à l'Église où l'autorité a été instituée par Dieu, Dieu a délégué son autorité dans différentes sphères et ces sphères apparaissent l'une après l'autre dans cette première épître de Pierre. Il faut ajouter à ces mots quelques autres versets dans 1 Pierre 2,8 où il est écrit « Il s'y heurte ». Alors, dans la version que j'ai sous les yeux, c'est « pour n'avoir pas cru à la parole ». Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Alors, il se peut que l'un d'entre vous ait une autre version dans laquelle figure le mot « désobéissant ». Il s'y heurte en désobéissant à la parole, par exemple. C'est une des possibilités de traduction. Alors, est-ce qu'il y a là un problème? Est-ce qu'un scribe a dérapé? Est-ce qu'il y a des contradictions dans les Écritures? Nous avons souvent parlé de ces questions. Il se trouve que le terme qui est utilisé dans le texte grec peut effectivement se traduire de plusieurs manières. Parce que c'est un petit mot qu'on retrouve à d'autres, dans d'autres passages, par exemple chapitre 3, verset 1, « Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole. » Voyez, vous avez, et c'est le même terme ici. En grec, c'est le même terme que dans 1 Pierre 2, verset 8, dans le chapitre 4 et au verset 17, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Voyez, vous avez aussi le même terme, le même verbe qui est utilisé ici. À trois reprises, vous avez un verbe différent. Les quatre premières fois que nous avons évoquées d'abord, et c'est intéressant parce que la signification des mots a beaucoup d'importance dans les Écritures. La Bible est verbalement inspirée, pas dans ses idées simplement, mais dans ses mots. Bien sûr, il faut faire attention aussi de ne pas faire dire aux mots n'importe quoi, hein, et ne pas inventer des mots qui ne figurent pas dans les manuscrits. Mais ces précautions étant prises, il y a beaucoup d'intérêt à faire attention au sens des mots. Les quatre premiers passages utilisent le même mot grec qui est très intéressant parce qu'il se compose du verbe « écouter » et qui est précédé d'un préfixe qui signifie « écouter dessous »,« hupakuo », voyez, « écouter dessous », c'est-à-dire se placer sous l'autorité, sous la domination, sous la seigneurie de celui qui parle. C'est intéressant. C'est intéressant. Et c'est ce qui permet de voir le lien avec le mot « soumission » qui est un des mots clés de la première épître de Pierre. Se soumettre, c'est se mettre dessous. Obéir, c'est écouter dessous. Et même notre terme français « obéir » est un vieux mot, et on sait, il y a à peu près 1000 ans de cela, oui, 900 ans, ce mot avait déjà ce sens, c'est une contraction en latin, là aussi, d'un préfixe suivi d'un verbe, et qui, très exactement, le préfixe c'est « devant », c'est intéressant là, c'est « devant », et le verbe qui a été modifié avec le temps, c'est écouter, écouter devant, et écouter là avec la notion d'écouter en tant que disciple, voyez, je suis devant toi, je suis assis devant toi, je me soumets à ce que tu es en train de me dire. désobéir. Dans les Écritures, là aussi, le mot est intéressant. C'est aussi akouo, ce verbe écouter. Mais le préfixe change. C'est parakouo. Et para veut dire se mettre à côté. Dans le sens, je m'éloigne, je n'accepte pas l'autorité de celui qui est en train de me parler. Je m'en éloigne. Je refuse sa seigneurie. Je refuse sa domination. Je refuse son message. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans l'hébreu de l'Ancien Testament, vous avez un terme qui est aussi traduit souvent par le mot français « écouter » et qui va exactement dans le même sens. Dans Genèse chapitre 3, verset 17, Dieu dit à l'homme « Puisque tu as écouté la voix de ta femme » et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, etc., le terme écouter peut tout à fait se rendre par le terme obéir. Puisque tu as obéi à la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, etc. Donc, voilà un mot du vocabulaire grec du Nouveau Testament qu'on retrouve à quatre reprises ici dans la première épître de Pierre, et qui indique que nous portons une attention sérieuse à la parole, nous nous soumettons à son autorité, nous exécutons ses instructions. Et puis viennent alors ces trois autres références que nous avons vues ensuite dans 1 Pierre 2, 8, 3, 1 et 4, 17, où les versions rendent de manière variée par d'autres mots, un mot grec qui a une signification qui rejoint le sens de ce mot hupakouo, mais avec des nuances, avec une nuance de foi ou d'incrédulité. À l'origine de ce terme figure notamment chez les Grecs, dans la civilisation grecque antique, une déesse qui s'appelait Peito. Et Peito était la déesse de la persuasion, la déesse de l'éloquence peut-être même. Et dans les Écritures, ce terme est utilisé en tant que verbe, généralement, pour évoquer le fait de se laisser convaincre ou de refuser de se laisser convaincre, de se laisser persuader ou de ne pas se laisser persuader. Donc d'obéir ou de résister, de croire ou d'être incrédule. Voyez ? Donc à trois reprises, vous avez l'usage de ce verbe dans la première épître de Pierre. Nous avons donc sept passages qui utilisent le vocabulaire centré sur l'obéissance et la désobéissance dans cette première épître de Pierre. Faut-il plaider sur l'importance de l'obéissance et sur son caractère crucial dans les Écritures? Je vous renverrai simplement à un certain nombre de textes de base qui sont en eux-mêmes suffisamment éloquents pour nous persuader de l'importance de l'obéissance. Je pense à ce texte d'1 Samuel 15, 22-23, qui marque un tournant dans la vie du roi Saül. 1 Samuel 15, verset 22-23, je prendrai un peu plus haut, verset 22, oui c'est ça, verset 22, Samuel dit, il s'adresse à Saül, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins, ces dieux domestiques qui étaient tellement important dans la mentalité païenne, parce qu'autour de la possession de ces dieux domestiques, il y avait toutes sortes de questions d'héritage, de droit de propriété, etc. Mais je n'entre pas dans ces détails. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Et voyez, nous avons cette habitude de faire des classements, des hiérarchies dans le domaine du péché. Et quand on évoque dans l'Église de Jésus-Christ la divination, tout ce qui appartient aux arts occultes, n'est-ce pas, on dit « Ah !» Vous avez remarqué ce que Dieu ici va dire. Celui-là même qui va être scandalisé, qui va lever les mains au ciel et qui va rugir face à une attitude de quelqu'un qui va voir la tireuse de cartes, la cartomancienne, ou va pratiquer l'occultisme, pourrait s'entendre dire par le Saint-Esprit, mais tu sais, quand tu désobéis, c'est tout aussi grave. Et quand on sait, dans nos vies, les conséquences de certaines de nos désobéissances, les regrets que nous avons au fond de notre cœur parfois pendant des années, des décennies, jusqu'à la fin de nos jours, même avec la grâce de Dieu, à cause de certains choix, où nous avons volontairement désobéi au Seigneur, n'est-ce pas? Voilà un texte important, vous savez. Nous aurions pu commenter un Samuel 15, c'est vraiment un tournant dans l'histoire de Saül. Et c'est le grand problème de Saül. Un esprit indépendant qui voulait bien d'une obéissance conditionnelle dans certaines situations, mais qui a choisi de n'en faire finalement qu'à sa tête. Et l'attitude de Saül tranche tellement sur celle de David, n'est-ce pas? Qui certes avait aussi besoin du sang de la croix par effet rétroactif. Dans son cœur et dans sa nature, il n'était pas meilleur que Saül. Mais il y avait en lui le désir d'obéir à la volonté de Dieu. Voici l'homme qui fera toutes mes volontés, dira l'Éternel, n'est-ce pas? Un homme selon le cœur de Dieu, qui connaîtra des chutes douloureuses et des désobéissances qui l'accompagneront tristement jusqu'à la fin de ses jours, n'est-ce pas? Qui assombriront les dernières années de son règne. Mais un homme qui avait soif de faire la volonté de Dieu, passionné de Dieu. Et il y a dans toutes nos églises et dans notre monde des David et des Saül. Voilà un texte parmi d'autres. Nous aurions pu évoquer le livre du Deutéronome, un des livres que je considère comme les plus importants des Écritures. Le livre du Deutéronome est d'une manière toute particulière le livre de l'obéissance et de la désobéissance. C'est le livre qui évoque les relations toutes particulières, toutes privilégiées entre Dieu et son peuple, entre le père en quelque sorte du peuple d'Israël, puisque c'est ainsi qu'il faut comprendre la notion de paternité divine dans l'Ancienne Alliance. Dieu, le père du peuple d'Israël et un père qui éduque son fils, son premier-né, comme il sera dit ailleurs, n'est-ce pas ? Et toute l'éducation du peuple d'Israël, telle qu'elle s'exprime dans le livre du Deutéronome, tourne en particulier autour de cet axe de l'obéissance et de la désobéissance. J'ai relevé quelques 90 mentions de ces dimensions d'obéissance et de désobéissance. C'est poignant, n'est-ce pas ? Tant c'est important. Vous avez dans les livres prophétiques un livre équivalent à cet égard, mais beaucoup plus tragique, parce qu'il est plus loin dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est le livre du prophète Jérémie, où là encore, lorsque on évoque ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que écouter, c'est se placer dessous, n'est-ce pas ? Obéir, se placer dessous, désobéir, c'est s'éloigner pour refuser l'autorité, c'est le grand thème du prophète Jérémie. Près de 140 mentions de l'obéissance et de la désobéissance, simplement par l'usage du verbe « écouter » et d'autres verbes de la même famille, mais essentiellement le verbe « écouter ». C'est incroyable dans ce livre du prophète Jérémie, la densité dans la répétition de ce terme « écouter, ne pas écouter ». Vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas écouté. Et ceci est répété au point que le texte est parfois d'une extrême lourdeur, tellement Dieu insiste sur la gravité de la culpabilité du royaume de Juda, essentiellement là, n'est-ce pas, qui est en train vraiment d'aller au-devant d'un terrible jugement, puisque la menace babylonienne est en train de se manifester, de se transformer en jugement de plus en plus sous les yeux de Jérémie. Nous avons évoqué tout à l'heure Genèse 3, le test du jardin d'Éden qui a été avant tout celui de l'obéissance, n'est-ce pas ? Et puis, dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 19, où il est question de la désobéissance du premier Adam, n'est-ce pas ? Malédiction pour l'humanité tout entière, n'est-ce pas ? L'humanité tout entière vit les affres du péché. C'est là la conséquence de la désobéissance d'un seul homme. Mais heureusement, nous avons dans cette même Épître, Romains 5, verset 19, l'impact extraordinaire de l'obéissance parfaite jusqu'à la mort de la croix. L'obéissance d'un seul, n'est-ce pas, qui vaut finalement un peuple nombreux, incalculable, au fil des siècles, jusqu'à ce que nous soyons en tant que multitude dans la présence de celui qui a vécu cette obéissance dont il est question de manière si remarquable dans Philippiens 2, n'est-ce pas ? Ça aussi, c'est un texte, c'est une marseillaise de l'obéissance de Christ dans les Écritures. Philippiens chapitre 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est vidé lui-même, prenant une forme d'esclave, devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant, devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, l'a surélevé, l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et puis, nous pourrions continuer, vous avez dans Hébreux, je crois que nous avons vu ça dans le passé ici, Hébreux chapitre 5, n'est-ce pas, versets 7 et suivants. Hébreux 5, versets 7 et suivants, il est question ici encore de la supériorité de Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur. Hébreux 5, 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver hors de la mort, non pas lui épargner la mort, le sauver. Il y a d'ailleurs une petite préposition très importante dans le texte, elle rend le texte lourd en français, c'est pour cela qu'on passe dessus, mais le sauver hors de la mort, c'est-à-dire qu'il ne reste pas dans le tombeau, n'est-ce pas? Parce que ça, ce serait le désastre, n'est-ce pas? Mais justement, qu'il connaisse la résurrection, voyez? Le sauver hors de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété, ici, de sa soumission humble et respectueuse. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Pour tous ceux qui lui obéissent, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Non pas en passant de la désobéissance à l'obéissance, comme nous ici-bas, n'est-ce pas? Mais simplement dans sa condition d'homme, à chaque stade de son parcours vers la croix, au fil des difficultés qui s'accroissaient, de l'opposition de plus en plus grondante, des souffrances de plus en plus éprouvantes, il a passé chaque stade à 100%. Victorieux dans sa soumission, dans son obéissance volontaire, dans son obéissance d'amour vis-à-vis du Père et par amour pour nous. À chaque stade, dans cette expérience qui était nouvelle, dans l'incarnation, ce mystère qui nous dépasse absolument infiniment, il est allé ainsi, d'obéissance parfaite en obéissance parfaite, mais à un degré toujours plus élevé, jusqu'à l'obéissance suprême. On ne pouvait pas aller au-delà de cette obéissance. C'était celle de la croix dans le don de sa vie. Nous avons longuement évoqué ceci dans certaines de nos études du passé. Et puis, dans ce plaidoyer sur l'importance incontournable de l'obéissance, vous avez l'Épître aux Romains, n'est-ce pas, qui a cette particularité d'être encadré par le thème de l'obéissance. C'est intéressant que la cathédrale de la foi chrétienne, cette clé d'or des Écritures que Dieu a utilisée pour des transformations radicales, pour le salut d'hommes et de femmes qu'il a ensuite utilisé pour des réveils spirituels, pour la réformation, etc., n'est-ce pas? Il est intéressant de réaliser que dans cette épître tellement fondamentale, adressée à la capitale de l'Empire romain, à l'Église de Jésus-Christ dans cette capitale. Et les lettres comme l'épître aux Éphésiens, aux Romains qui ont été adressées à des capitales, étaient des lettres capitales. Le message était extrêmement fondamental pour ces églises situées dans des lieux stratégiques. Et comment commence l'épître aux Romains? Chapitre 1er, verset 5. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi. L'obéissance de la foi qu'on retrouve au chapitre 16, dans les tout derniers versets. Romains chapitre 16, verset 26, verset 25 déjà, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication, la proclamation de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Vous voyez, l'épître s'ouvre sur l'obéissance à la foi de toutes les nations et elle se termine sur le même terme, la même expression, l'obéissance à la foi. La foi authentique est une obéissance du cœur, une obéissance de la volonté à la vérité divine. Alors vous avez acte 6, verset 7, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Hébreux 11, 8, c'est par la foi qu'Abraham obéit et partit. Acte 5, 32, Dieu a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Alors ça, c'est aussi un texte extrêmement important dans ces textes forts sur notre thème. Acte 5, verset 32. Déjà au verset 29, je lis à partir du verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué. » Tué de vos mains, en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a un lien très étroit entre le début du verset 29, il faut obéir. Le verset 31 dans l'expression « Dieu l'a élevé par sa droite comme prince » et enfin la fin du verset 32, le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Tout simplement parce que nous avons là un autre terme qui est rendu en français par notre mot « obéir ». Dans ce verbe, vous avez un élément qui figurait déjà tout à l'heure dans la deuxième définition que je vous ai donnée. Vous vous rappelez de la des peito, hein, se laisser persuader, se laisser convaincre, croire dans l'obéissance, hein, l'obéissance de la foi, ou l'inverse, dans la désobéissance, refuser de se laisser convaincre, de se laisser persuader. C'est le mot est là, il est dans obéir, mais avec une particularité, c'est qu'il est accompagné, dans le même mot, d'un autre terme qui laisse entendre qu'il s'agit d'obéir à un chef. Vous avez le petit mot en question dans le mot monarchie, le archi de la fin. C'est du grec, n'est-ce pas, qui évoque les chefs, n'est-ce pas, les chefs des nations. Eh bien, ici, vous avez cette utilisation de peito et de archéo. Donc, il faut obéir à Dieu comme on doit obéir à un chef, au chef suprême, plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme archégon, vous voyez, arché là, comme prince, comme chef suprême et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent, c'est le même terme, qui lui obéissent comme on doit obéissance à un chef. Alors là, on touche à quelque chose d'une immense importance. Et ce sur quoi d'ailleurs nous nous sommes beaucoup, beaucoup arrêtés déjà dans le passé, dans certaines de nos études, la seigneurie de Jésus-Christ. Grand thème de la première épître de Pierre. Grand thème des sept lettres aux églises, aussi d'Asie mineure, dans le début de l'Apocalypse, à cause de la seigneurie des empereurs. Alors nous pourrions là passer énormément de temps a évoqué tout ce que cela représentait pour le disciple de Jésus-Christ à Rome, aussi bien que dans l'ensemble de l'Empire romain. Vous vous souvenez, nous avions déjà évoqué dans le passé ce soldat qui, avec sa petite escouade, gardait Paul, qui annonçait l'évangile à tout le prétoire, n'est-ce pas ? Et qui, parfois, pour un certain nombre d'entre eux en tout cas, ressortait de la cellule où Paul était prisonnier, le cœur bouleversé, parce que Paul, le vieillard, l'avait conduit au pied de la croix. Et Paul était loyal dans l'annonce de l'évangile. Il n'annonçait pas un évangile affadi, altéré, à l'eau de rose, pour compter les cartes de décision. Il annonçait un évangile qui coûte, parce qu'il a coûté à celui qui nous a sauvés. Et donc il disait, tu sais, tu vois où je suis, moi. Hein? Eh bien, maintenant, le Seigneur Jésus est ton Seigneur. Et j'imagine combien cette réalité illuminée par le Saint-Esprit dans le cœur de ce tout nouvel enfant de Dieu devait le travailler alors qu'il repartait vers sa caserne avec les autres soldats. Parce qu'à un moment ou à un autre, ils allaient croiser des fonctionnaires ou d'autres soldats et ils allaient se saluer, n'est-ce pas ? Et en se saluant, l'un allait dire « César est le Seigneur ». Et il allait être tenté de répondre ce qu'il faisait d'habitude. « Oui, le Seigneur, c'est César. » Et parce que il avait été préparé à cela, ce soldat, au moment peut-être où il s'apprête à crier, va dire « Mais non, désormais mon Seigneur s'appelle Jésus-Christ. » Et cela allait lui valoir comme à tant de milliers et de milliers, de dizaines de milliers de croyants, jusqu'au début du IVe siècle, d'être crucifié le long d'une voie romaine, ou de servir de candélabre, de réverbère, de torche dans les jardins de Néron le Fou. Mes amis, quand on lit un texte comme celui d'Acte 5, en pensant à ce qu'il signifie vraiment, au prince et au sauveur, et à ce qui se vit aujourd'hui dans un certain nombre de pays du monde, où le défi est exactement le même, l'obéissance alors prend un relief particulièrement saisissant. Je vous rappelle que si Jésus en soi-même signifie « il sauve », n'est-ce pas ? Le titre de sauveur dans le Nouveau Testament pour évoquer la personne de Jésus-Christ n'est utilisé que 16 fois. Là où Jésus est appelé Seigneur plus de 470 fois. Et si on ajoute tous les textes dans lesquels on ne sait pas s'il s'agit du Fils ou du Père, où la seigneurie se confond avec l'un ou l'autre, on passe largement au-dessus de 600 passages qui évoquent continuellement la seigneurie. Je suis en train de me pencher depuis quelques semaines déjà sur le disciple de Jésus-Christ dans les Écritures, en vue de la prochaine convention de Palaiseau. Et je suis assez bouleversé parce que j'y découvre et redécouvre. Et je vous livre là quelques réflexions que j'ai découvertes aussi dans un certain nombre d'ouvrages. pourquoi l'Église occidentale décline-t-elle si brusquement en comparaison avec celle des pays matériellement pauvres du monde? Pourquoi le monde chrétien occidental est-il trop mou pour faire quelque chose de valable dans la bataille acharnée contre le marxisme et l'islam? Quelle raison donner? C'est parce que les chrétiens d'Occident sont membres d'Églises, remplisseurs de bancs, chanteurs d'hymnes, dégustateurs de sermons, lecteurs de la Bible, même des gens nés de nouveau, mais ils ne sont pas de véritables disciples de Jésus. Si nous étions prêts à apprendre ce que signifie vivre en disciple et à devenir de réels disciples du Seigneur Jésus, l'Église d'Occident serait transformée et l'impact sur la société qui en résulterait serait bouleversant. En tout cas, je veux le prendre pour moi. Les disciples du rabbi juif, écrit cet auteur, lui étaient soumis comme des esclaves l'étaient à leur maître, jusqu'au jour où ils pouvaient cesser leurs études et devenir eux-mêmes des maîtres ou des rabbis. Mais Jésus appelle ses disciples à une obéissance absolue pour toute leur vie. Nous ne prendrons jamais de grade ici-bas. Nous n'irons jamais au-delà d'une vie d'obéissance. Obéir à la volonté de Dieu, c'est réussir sa vie. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font ce que veut mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Luc 6, 46. Être un disciple de Jésus signifie marcher sur ses traces, prendre le chemin qu'il prend, accepter son plan et sa volonté pour notre vie. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Marc 8, 34. C'est un appel à dire non à notre antique manière de vivre pécheresse égocentrique et à dire oui à Jésus. Søren Kierkegaard a dit une fois, il est très difficile de croire parce qu'il est très difficile d'obéir. Sans obéissance, il n'y a pas de vraie foi ni de vie de disciple. Oh, Søren Kierkegaard n'était hélas pas un modèle en matière de théologie. Donc, je le cite parce que, en tout cas, cette parole est juste. Dire qu'il l'est appliqué dans sa vie, il aurait bien eu du mal, vu ses convictions dans un certain nombre de domaines absolument essentiels. J'ai sous les yeux cet extrait d'une lettre de David Livingstone. Nous connaissons ce pionnier remarquable, disciple de Jésus-Christ, mais qui avait bien des cordes à son arc et qui a été un grand pionnier missionnaire en Afrique et qui écrivait à sa sœur Agnès que jamais nous ne considérions l'obéissance à l'ordre du roi comme un sacrifice, alors que les hommes du monde considèrent l'obéissance aux ordres de leur gouvernement comme un honneur. Je suis missionnaire au plus profond de mon cœur et de mon âme. Dieu n'avait qu'un fils unique, il fut missionnaire et médecin. Je ne suis qu'un bien pâle reflet de ce qu'il fut. C'est à cette tâche que je veux consacrer ma vie. C'est en l'accomplissant que je souhaite mourir. Et c'est en l'accomplissant qu'il mourut, puisque on le retrouva un matin très tôt, à genoux, dans sa hutte, apparemment endormi, mais endormi dans la présence de son Seigneur alors qu'il priait. Et ce que contenait son carnet de notes intimes des jours précédents était particulièrement émouvant concernant l'intensité de son obéissance et de sa consécration. Il me reste simplement pour terminer, à ajouter ces quelques textes de l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, Jean 14, c'est Jésus qui parle. Toutes ces paroles ont eu beaucoup d'importance, mais certaines de ces paroles ont été revêtues d'une solennité particulière parce que c'était en quelque sorte les dernières paroles d'un mourant qui voyait se profiler désormais quasiment à portée de sa main la croix sur laquelle il allait monter. Ce partage à cœur ouvert du Seigneur Jésus avec ses disciples est profondément émouvant. Et nous avons au verset 15 cette parole: « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Verset 21: « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Verset 23-24: « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. » Chapitre 15, verset 9 à 14. Après cette extraordinaire image vivante du vrai cep et des sarments, Jésus souligne: « Comme le Père m'a aimé, verset 9, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. » Je suis heureux de terminer cette première étude en soulignant le lien que Dieu veut pour ses enfants entre leur obéissance et la motivation la plus belle de cette obéissance, à savoir l'amour. Oh, certes, Dieu n'a rien contre le fait d'obéir, parfois par peur. Nous sommes ainsi faits qu'il faut parfois que nous soyons dans la panique pour que nous venions au bon endroit, pour faire ce que le Seigneur veut. Mais bien sûr, Dieu ne voudrait pas que notre relation avec lui soit dominée par la peur. Certes, comme nous le verrons, par un respect, une révérence, ce que la parole de Dieu appelle la crainte de Dieu, qui peut aller jusqu'à l'effroi devant la révélation qu'il plaît parfois à Dieu de nous accorder de quelque aspect de sa majesté. Et ça, nous l'avons trop oublié aujourd'hui. Mais néanmoins, la plus belle des motivations de notre obéissance doit être celle de notre amour, de notre amour pour lui. Notre obéissance devrait d'abord être l'expression de notre amour pour celui qui nous chérit. Obéissance du cœur, obéissance de l'intérieur, une obéissance non formelle, une obéissance à celui qui nous appelle ses amis, ceux qui l'affectionnent. Nous sommes ses soldats, nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses esclaves, nous sommes les amis de l'époux. Et c'est le plus bel aiguillon de l'obéissance que de pouvoir lui dire: Seigneur, par ta grâce et par ton esprit, j'ai vraiment le profond désir de t'obéir, parce que je ne saurais jamais assez t'aimer en retour de l'amour dont tu m'as aimé le premier et dont tu ne cesses de m'aimer jour après jour, heure après heure, instant après instant. Tu respires l'amour qui fait partie, nous le verrons, intégrante de ta sainteté. Combien je me réjouis de pouvoir simplement le dire, et je l'illustre par cette petite histoire du champ missionnaire. C'est l'histoire d'un enfant de missionnaire qui joue dehors et qui soudain, c'est authentique, entend la voix de son père: Philippe, obéis à ce que je te dis, jette-toi à plat ventre immédiatement. Et le garçon, d'obéir sans poser de questions, ce qui n'est plus tout à fait courant aujourd'hui, et c'est un euphémisme que de le dire ainsi: maintenant, viens vers moi, à quatre pattes, aussi vite que possible. Et le garçon, d'obéir: maintenant, lève-toi, cours jusqu'à moi. L'enfant se lève, obéissant, se jette dans les bras de son père, puis il se tourne pour regarder l'arbre sous lequel il jouait quelques instants auparavant, parce que son père le lui montre. Et il découvre d'une branche, juste au-dessus de là où était sa tête, un serpent long de 5 mètres qui était en train de descendre. Obéissance d'un enfant qui avait appris à obéir, manifestement. Mais c'était la marque de la foi. L'enfant avait confiance en son père. Et il l'aimait. Alors, puisqu'il l'aimait, qu'il lui faisait confiance, il n'a pas posé de questions, comme on le fait trop souvent aujourd'hui, où les rapports familiaux sont tellement devenus problématiques à cause des caricatures des pères ou de l'absence des pères, etc., n'est-ce pas ? Il n'a pas posé de questions. Il faisait confiance à son papa. Je demande à Dieu que, pour ma part, dans ma propre vie, jusqu'à ce qu'il me reprenne auprès de lui ou qu'il revienne prendre son église, je lui fasse simplement, suffisamment confiance et que je l'aime suffisamment pour vouloir lui obéir par sa grâce et par le ministère permanent de son esprit, parce que si nous devions obéir à l'aide de simplement nos propres forces, nous serions bien entendu vaincus à tous les coups. Mais Dieu donne ce qu'il ordonne. Il est celui en qui réside le vouloir et le faire pour nous, pour nous. C'est là sa volonté de nous équiper pour que nous soyons rendus capables d'obéir, quelles que soient les circonstances. C'est un apprentissage. Il y aura des échecs, il y aura des chutes, mais nous allons nous relever chaque fois pour aller un peu plus loin dans cette obéissance, parce que Dieu achèvera l'œuvre qu'il a commencée en nous, à l'instant même où son esprit nous a fait naître à la vie nouvelle. Nous voulons prier. Nous te remercions, ô notre Dieu, d'avoir préservé cette première épître de Pierre dans cette collection complète des livres qui constituent ta sainte parole. Merci de l'avoir préservée pour qu'elle parvienne jusqu'à nous. Parce que son contenu est tellement précieux pour les temps dans lesquels nous sommes. Et nous te remercions de ce que tu aies bien voulu nous rappeler dans cette première étude, l'importance de l'obéissance, notre vocation d'obéissance à ta seigneurie. Merci, merci de tout cœur d'avoir un maître absolu, un seigneur, un prince, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, tel que toi. Nous te bénissons, ô notre Dieu, parce que tu es doux et humble de cœur. Nous te bénissons, Seigneur, parce qu'il fait bon te servir, il fait bon t'aimer, il fait bon mettre sa confiance en toi. Merci parce que tu ne nous déçois pas. Apprends-moi de plus en plus à t'obéir avec joie, par amour. Même lorsque je ne comprends pas le chemin par lequel tu me fais passer. Sois béni, parce que tu es un Dieu juste, tu es le Dieu saint, comme nous allons le voir. Merci de ce qu'en toi nous soyons loin de l'arbitraire, de la dictature, de la versatilité, de l'instabilité, de la cruauté, du sadisme. Merci pour la beauté de ta personne. Nous sommes heureux de t'appartenir. Et nous voulons reconnaître ta souveraineté, ta suzeraineté sur chacun d'entre nous. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.